Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. Nouvelle attaque des EDF en Ituri contre un convoi de véhicules des transports en commun. C'était hier sur la nationale numéro 4 au sud d'Irumu. Bilan provisoire, 3 morts, 7 blessés et 2 véhicules incendiés. Ce bilan pourrait s'alourdir d'après plusieurs sources sur place. Sud Kivu, l'exploitation minière en cours à Mwenga est anarchique et illégale. Aucun exploitant n'y dispose d'un permis de gouvernement congolais. Ceci ressort de l'enquête parlementaire initiée à ce sujet. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu compte inviter le gouverneur de province pour avoir des explications à ce sujet. Kivu toujours, le territoire insulaire d'Idjui produit 2000 tonnes de café chaque année, équivalent à 9 millions de dollars environ. Ceci justifie l'installation à Idjui d'un laboratoire moderne de traitement de café produit localement. Pour en parler, nous recevons le président de la société coopérative des producteurs novateurs du café au Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri avec cette nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF contre un convoi de véhicules de transport en commun. Cela s'est passé hier sur la nationale numéro 4 au sud du territoire d'Irumu. La société civile locale avance un bilan provisoire de 3 morts, 7 blessés et 2 véhicules incendiés lors d'un échange des tirs entre ces rebelles et des militaires FARDC qui escortaient le convoi. Plusieurs sources dans la zone rapportent que ce bilan pourrait s'alourdir. Les véhicules incendiés transportaient des passagers dont certains sont introuvables. Jusqu'ici, le récit de Ezekiel Mouzalia.
Le convoi partait de Komanda pour Luna, distant d'environ 75 km et sous escorte conjointe des militaires des FARDC et des casquets bleus de la MONUSCO. D'après des sources sécuritaires dans la zone, 117 véhicules ont été escortés par les FARDC à partir de Luna jusqu'à Beni, au nord Kivu voisin. C'est à l'entrée du village Kabrik, proche des Ringeti, que ces rebelles, sortant subitement de la brousse, ont commencé à tirer dans tous les sens. Des sources proches de l'administrateur du territoire renseignent que ces rebelles ont attaqué le convoi par l'arrière où ils ont incendié 2 véhicules avec des marchandises et des passagers à bord. Les FARDC ont riposté et réussi à faire fuir l'ennemi, apprend-on des sources concordantes. Le bilan actuel de cette attaque est de 3 personnes tuées et 7 autres blessées. Les blessés ont été acheminés dans une structure médicale à Eringeti, mais la société civile locale affirme que ces bilans pourraient s'alourdir car plusieurs passagers demeurent encore introuvables. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restons en Ituri. Des affrontements sont signalés depuis hier à Idjina entre les militaires des FARDC et les miliciens de la Codeco dans le territoire de Djougou. L'armée a lancé l'offensive contre cette milice dans la zone après le pillage la veille des 2 structures sanitaires et des dizaines de vaches par ces miliciens ainsi que l'incendie de plusieurs maisons dans le groupement voisin de Malabo. D'après un notable, environ 4 entités coutumières dans la zone des combats sont presque vidés de leurs habitants. Certains ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO installée dans la région. Retrouvons à nouveau Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis jeudi dans l'après-midi qu'une forte présence des miliciens de la Codeco est observée au chef-lieu du groupement Malabo, à environ 40 km au nord de Bounia, sur la route nationale numéro 27 dans les territoires de Djougou. Ces assaillants ont multiplié des exactions contre des civils, incendie des maisons, pillage des biens dans les formations médicales, l'enlèvement des civils. Ils ont pillé plus de 55 vaches et mis les feux sur les restes des maisons des civils en fuite jeudi à Malabo, déclare les députés provinciaux Luna Mastaki, élu du territoire de Djougou. Trois personnes ont été blessées par balles, dont un cultivateur, pendant l'attaque de ces hommes armés. L'ennemi a été repoussé grâce à l'intervention des militaires. Ce vendredi matin, les combats ont repris à 10 km de Malabo où ces miliciens se sont retranchés. Pour l'instant, le trafic entre Jina et Malabo est momentanément interrompu. De nombreux habitants se sont dirigés vers la base de la MONUSCO pour sauver leur vie, affirme cet élu du peuple. Le bilan de cette attaque n'est pas encore connu. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujet. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au nord Kivu voisin, la tension reste vive dans la commune rurale de Kirumba, au sud du territoire de Lubero. Ce, au lendemain des échauffourées qui ont éclaté hier à la suite de la mort d'un taximen moto. Les activités socio-économiques sont paralysées. Des jeunes en colère ont une nouvelle fois manifesté. Ils ont incendié le bureau communal et le domicile du bourgmestre. Grâce Amzati nous raconte.
Des sources concordantes indiquent que le matin, des jeunes manifestants ont érigé les barricades sur les principales artères de la commune. Ils exigeraient de l'argent aux véhicules qui empruntent la route nationale numéro 2 qui va jusqu'à Goma. Si la somme d'argent demandée n'est pas versée, les véhicules est immobilisé. Cette tension a commencé hier lorsque des militaires ont arrêté quelques jeunes qui avaient allumé un feu géant sur la voie publique au quartier Kasungano pour protester contre l'insécurité. La situation avait dégénéré et des échauffourées avaient éclaté. Dans la confusion, un militaire aurait tiré sur un conducteur de taxi-moto qui est décédé sur place. Un acte qui a mis de la poudre au feu, selon Kamere Bonané, président de la société civile locale. Les manifestants ont ensuite incendié les bureaux du quartier Biréré ainsi que les locaux qui abritent les services administratifs de la commune, de la police, de l'ANR et même le domicile du bourgmestre. Ces derniers qui confirment ces faits parlent de 3 blessés dont 2 civils et un officier de FARDC. Mouindo Loulé Mathieu ajoute qu'une arme PKM et une autre de type AK-47 ont été arrachées des mains des forces de l'ordre par les manifestants. Mais il assure que la situation est actuellement sous contrôle grâce à la présence de l'administrateur du territoire des Loubéros, Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Revenons sur l'attaque de la ville de Bukavu et ses périphéries dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier. Le Parti congolais pour le progrès, PCP, exige une enquête indépendante pour déterminer les vrais commanditaires et les exécutants de cette attaque, ainsi que les mobiles de ces événements malheureux. Dans une déclaration à la presse ce samedi à Kinshasa, le président national intérimaire de ce parti, membre de l'Union sacrée de la nation, dit condamner avec fermeté toutes ces initiatives qualifiées de guerrières qui retardent le développement de la province du Sud Kivu, dit-il. Les propos d'Aimé Jules Murula Manigabe, recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le Parti congolais pour le progrès, PCP en sigle, condamne avec fermeté ces initiatives guerrières de plus qui ont été imposées à la province, qui a toujours payé des lourds tributs du fait des guerres à répétition. Le PCP demande aux autorités provinciales, civiles, militaires et policières, d'être plus vigilantes et proactives en vue de garantir la paix et la sécurité à tous. Le PCP demande à la population de faire confiance aux institutions de la République et de renforcer sa collaboration avec les autorités compétentes ainsi que les forces de défense et de sécurité, tout en se désolidarisant de toutes les forces négatives, d'où qu'elles viennent et quelles que soient leurs raisons ou revendications, parce que l'avenir de notre pays en dépend.
Je vous le disais en titre, toutes les sociétés minières détenues par des opérateurs étrangers dans le territoire de Mwenga au sud Kivu ne disposent d'aucun permis d'exploitation. La conclusion émane de la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale du sud Kivu sur cette question. À la plénière d'hier à Bukavu, les députés provinciaux ont souhaité recevoir du gouverneur de province d'amples explications sur cette situation. Emmanuel Elameji Wakabedi nous en dit plus.
La plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu de ce vendredi est allée jusque tard dans la soirée, le seul sujet étant l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'exploitation de minerais à Mwenga. En conclusion, l'exploitation minière en cours dans le territoire de Mwenga est anarchique et illégale. Aucun exploitant ne dispose d'un permis du gouvernement congolais. Ces opérateurs étrangers exploitent sous couvert des coopératives minières locales. Cette situation est à la base de la fraude minière par manque de traçabilité de minerais, surtout de l'or. Ainsi, l'Assemblée provinciale souhaite inviter le gouverneur de province afin de recevoir des explications sur cette question. Les députés recommandent également au Sénat congolais de convoquer les ministres des Mines et de la Défense nationale sur la présence des militaires qui sécurisent ces exploitants miniers étrangers. Rappelons que l'Assemblée nationale avait, elle aussi, dépêché une autre commission d'enquête parlementaire sur l'exploitation des minerais à Mwenga. Le rapport se fait toujours attendre. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. Dans le territoire de Nyiragongo, nous apprenons qu'une vaste étendue des champs a été détruite jeudi par les eaux de ruissellement en provenance du Rwanda voisin. C'était pendant une forte pluie. Ces eaux chargées de sable, des cailloux ainsi que de la boue ont rasé des cultures, affirme la société civile de Kibumba. Les groupements de Kibumba et Buumba sont les plus touchés, précisément à partir des villages Ehou et Kiroge, situés à la limite avec le Rwanda. Toutes les plantes ainsi que les fruits dans les champs ont été emportés par les flots. Le président de la société civile de Kibumba alerte déjà les autorités sur une grave disette qui doit s'abattre dans un futur proche sur ces deux entités. Fataki Sebatusi Joseph le dit au téléphone de Gabriel Wamenya.
La situation sécuritaire et alimentaire de Kibumba-Bohumba est tellement grave puisqu'il y a une fourmis qui s'est réembondée à travers. Plusieurs champs ont été emportés par l'eau de la fourmis de Rousserma. Nous avons inquiétude qu'il y a une canalisation au niveau de notre pays voisin, Rwanda, qui est canalisée sous canalisation vers Kibumba et Bohumba. Tous les champs ont été apportés par l'eau de Rousserma de la fourmis. Bon, certains villages sont été touchés par cette érosion. C'est un village Kingarame, village Kabindi, village Rutovu, village Hehu. Précisément même dans tous les groupements de Bohumba, même les groupements de Kibumba. Nous craignons qu'il y aura un chômage abondamment puisque vous connaissez notre entité Kibumba-Bohumba. Il visait pour l'agriculture. Alors dès que la projet est abondamment à Kibumba-Bohumba, ça sera en tout cas un chômage notoire.
La société civile de Kibumba et Bohumba rappelle que cette situation a déjà été décriée maintes fois et elle avait même sollicité auprès de la MONUSCO et du gouvernement congolais une solution pour la canalisation des eaux de ruissellement qui coulent des flancs des collines rwandaises à chaque fois qu'il y a des fortes pluies. Restons au Nord Kivu cette fois pour parler santé. Au total, 12 personnes sont décédées des maladies jusque-là inconnues, cela en l'espace de 5 jours, soit du 30 octobre au 5 novembre en cours. Dans les différentes structures médicales du groupement IANA, territoire de Walikale, le chef du groupement IANA tire la sonnette d'alarme et exige une intervention urgente des autorités et des partenaires pour éviter une catastrophe sanitaire. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Le chef de groupement d'IANA qui lance l'alerte précise que cette situation est consécutive au désengagement des organisations humanitaires qui appuyaient en médicaments toutes les structures médicales de son entité. Actuellement, tous les hôpitaux, centres et postes de santé sont quasi vides et connaissent depuis plus d'un mois maintenant une pénurie criante de médicaments essentiels. Les maladies qui déciment aujourd'hui les populations de cette entité présentent des symptômes de la malaria, des diarrhées colériformes ainsi que des maux de tête aigus. Conséquence, la population recourt parfois au traitement traditionnel alors que d'autres malades attendent impuissamment la mort dans leur maison. Mwami Serafin Ngoulou plaide pour une intervention urgente des autorités ainsi que des partenaires pour sauver des milliers de vies en détresse dans les deux zones de santé qui couvrent les groupements IANA.
Dans la zone de santé, du 30 au 5 novembre, nous verrons enregistrer 12 morts, nos structures manquent de médicaments.
Signalons que ces informations n'ont pas été confirmées par des sources médicales à Pinga et à Kibua. Goma, Gabriel Ouaméya, Radio Okapi.
Nous allons dans la province du Maniema. L'organisation non gouvernementale Ouaki Maniema a organisé hier à Kindu un atelier d'information sur le projet de renforcement du système de santé communautaire RSS, ce en partenariat avec Sanru et Cordaid avec l'appui financier du Fonds mondial. On prépare à cette rencontre toutes les couches de la population bénéficiaire de ce projet. Selon Didier Ilunga, chef de projet RSS communautaire, ce projet qui sera exécuté dans 10 zones de santé vise l'implication de la communauté dans la lutte contre plusieurs maladies. Didier Ilunga explique au micro de Florence Kizalunga.
Ça fait partie du lancement effectif de la subvention que nous appelons renforcement du système de santé, volet communautaire, appuyé par Sanru. Le projet consiste à réveiller les cellules d'animation communautaire au niveau de nos différentes aires de santé. Et là, on voit les relais communautaires qui doivent être formés, accompagnés pour qu'ils arrivent à faire effectivement ce qu'ils doivent faire comme travail. Et nous avons dit que la santé, c'est l'affaire de nous tous. C'est pas l'affaire des médecins, c'est pas l'affaire des infirmiers. Tout le monde est impliqué dans le domaine de la santé. Et pour que ça réussisse, nous devons commencer par le niveau le plus bas. Les relais communautaires seront formés. On va structurer, redynamiser toutes les cellules d'animation communautaire. On va former, on va structurer et redynamiser également les CODESA. Et toutes ces structures de participation communautaire seront appelées à réaliser effectivement et de manière très régulière leur travail pour que, avec le médical, nous puissions produire des grands fruits qui sont attendus pour lutter effectivement contre toutes ces maladies et tous les autres problèmes de santé.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande le retour immédiat du gouvernement civil au pouvoir. Après le putsch du 25 octobre dernier, la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé toute une série de violations des droits humains, comme les tirs à balles réelles contre des manifestants qui, selon elle, ont fait 15 morts et plus de 300 blessés, mais aussi la coupure Internet depuis le putsch qui empêche la population de s'informer. Depuis plusieurs jours, d'intenses négociations sont en cours à Khartoum, la capitale soudanaise, avec de nombreux médiateurs nationaux et étrangers pour tenter de remettre sur les rails la transition. Parmi les pistes étudiées, un gouvernement des technocrates mené par Abdallah Hamdok, le premier ministre en résidence surveillée depuis le putsch. Pour le moment, aucun accord n'a encore été trouvé entre civils et militaires. Si les médiateurs internationaux cherchent à pousser les généraux au retour au statu quo avant le coup d'État, les militants soudanais mobilisés dans les rues ne l'entendent pas de cette oreille.
L'invité.
Il nous vient du sud Kivu. Le territoire insulaire d'Idjui produit 2000 tonnes de café, soit environ 105 containers de café chaque année, une production qui rapporte près de 9 millions de dollars. Voilà qui justifie l'installation à Idjui en début de semaine d'un laboratoire moderne de traitement du café produit localement. Ce laboratoire permet désormais de faire toutes les analyses de qualité du café avant exportation. Pour en parler, nous recevons Gilbert Makelele Kadira, président de la Société coopérative des producteurs Nova du café au Kivu. Il s'entretient avec Emmanuel Elamiji.
Monsieur Gilbert Makelele, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Emmanuel.
Alors, parlez-nous des activités de café dans l'île d'Idjui, où vous êtes basé ces derniers temps. Comment ça se passe?
Actuellement, nous sommes sur l'île d'Idjui. Nous sommes en train d'inaugurer les laboratoires modernes du café. Désormais, la province d'ici Kivu a un laboratoire du café basé au territoire d'Idjui. Et nous venons également par l'entremise de l'ONAPAC. L'île d'Idjui vient d'avoir les codes 015 attribués par l'Organisation internationale du café. Et donc désormais, l'île d'Idjui pourra exporter son café directement de l'île d'Idjui vers l'Europe, vers les États-Unis, sans passer par Goma ou Bukavu. Et donc, désormais, nous n'allons plus continuer à envoyer nos échantillons de café en Belgique, parce que ça nous coûtait trop cher pour envoyer un échantillon en Belgique. On était en train de payer autour de 148 dollars l'envoi d'un échantillon pour analyse. Et si vous devez ajouter également autour de 250 euros pour faire l'analyse, ça nous prenait assez d'argent. Mais désormais, c'est un travail qui sera fait au niveau local. Deuxièmement, il y a la jeunesse. Donc c'est un centre de formation, c'est un centre d'apprentissage. Donc désormais, toute la jeunesse de l'île d'Idjui, de Kabare, Kalene, même de la province Serre du Nord Kivu, pourrait envoyer des jeunes à Idjui pour l'apprentissage. Désormais, avec la présence de notre laboratoire ici, si le café a titré 85% à Idjui, nous allons garder les résultats obtenus au niveau de l'île d'Idjui. Et lorsque les conteneurs vont partir, nous allons accompagner ces conteneurs avec les résultats du café pour nous éviter des contestations lorsque le café va arriver à la destination finale, pour nous éviter de pertes d'argent après.
Vous parlez, président Gilbert Makelele, vous parlez des conteneurs qui partent. C'est quelle quantité de café que produit l'île d'Idjui, par exemple, par an?
Au fait, l'île d'Idjui a la capacité de production de 2000 tonnes de café, soit 105 conteneurs de café. Donc, si toute la production du café de l'île d'Idjui est correctement contrôlée, l'île d'Idjui, avec les 2000 tonnes, soit 105 conteneurs de café, ça vous donne un montant de 9 millions de dollars. Mais il y a encore des défis à relever. Donc, au niveau du gouvernement central, on a parlé des intentions de la création d'une banque de crédit agricole. Et donc, nous sommes en train de lutter contre la fraude de notre café vers le Rwanda. Mais il ne sera pas facile de continuer à lutter contre la fraude du café vers le Rwanda si nous n'avons pas l'accès aux finances. Et donc, au niveau du gouvernement central, nous leur demandons d'accélérer la mise en place de cette banque qui a été promise par le Premier ministre lors des États généraux de l'agriculture, parce que nous devons avoir suffisamment de prêts pour acheter ou collecter toute la production de nos producteurs de café au niveau de l'île d'Idjui, au niveau de ses environs, notamment Kabare et Calais également.
Peut-être pour terminer, vous parlez de tout l'argent que ça peut rapporter si tout allait par la voie normale, d'une centaine de conteneurs par an. Qu'est-ce que ça rapporte aux membres de votre coopérative au retour? Qu'est-ce qu'ils gagnent?
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. C'est une très très bonne question. Tout de suite, je dois d'abord vous dire que les mamans d'abord sont très contentes parce que leur mari ne quitte plus la maison pour aller mourir dans le lac Kivu. Avant l'avènement de la coopérative, les papas quittaient avec le café à bord des pirogues en train de ramer vers le Rwanda. Et très souvent, nombreux mouraient à bord de ces pirogues-là par noyade, naufrage ou des fois même par braquage. Et donc, avec l'avènement de la coopérative, il y a d'abord le marché local. Donc, le marché est là, vous produisez votre café de spécialité. Tout de suite, la coopérative vous donne l'argent à partir même de la maison. De deux, lorsque nous avons lancé la coopérative sur l'Indigui, l'un kilo de café coûtait 500 francs congolais. Mais aujourd'hui, le kilo avoisine 2 $. Lorsque le maman, avec le papa bien sûr, termine à cueillir le café, elles amènent le café au niveau de la vache de café, c'est fini. La maman est dégagée, elle peut faire autre travail. Voilà un peu ce que nos producteurs sont en train de gagner actuellement.
Monsieur Julbert Makelele, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à la radio Okapi.
Le président de la coopérative des producteurs novateurs du café au Kivu était avec Emmanuel Elameji Wakabedi. C'est la fin de ce journal, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, à la technique Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Retrouvez ce journal sur notre site www.radiokapi.net. Merci.